Bonjour Monseigneur Nicolas.
Bonjour Laurence.
Alors aujourd'hui, nous sommes ravis donc de vous recevoir ici dans le studio de Radio Ecclesia. Notamment, nous allons parler donc de l'élection du pape Léon XIV le 8 mai 2025, 80 ans après la signature de l'armistice. Et donc, on va recueillir un petit peu vos impressions, votre témoignage, votre retour un peu sur l'élection du pape.
Eh bien, oui, on a été surpris parce qu'il ne faisait pas partie quand même des candidats dont on parlait le plus dans les médias pour devenir pape. Donc ça a été comme une surprise de l'Esprit-Saint, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour les élections des papes. On pense qu'il y a un tel, il y a un tel, et puis finalement, c'est un troisième qui sort. Là, il y avait quand même 5-6 candidats qui avaient des chances d'être élus. Bon, voilà. Et puis c'est Léon XIV. On se réjouit, on avait prié l'Esprit-Saint, et puis voilà celui que l'Esprit-Saint nous a donné, si je puis dire.
Le pape aussi, dans son discours, parle de la guerre, jamais plus la guerre, le fait qu'il y ait eu aussi cette fête anniversaire. Est-ce que vous y voyez un signe, peut-être pour notre temps, qui est un peu perturbé, un message de paix?
Oui, alors là, j'ai pas tellement de recul pour la concordance de la date du 8 mai. Bon, voilà, en tout cas, il a d'abord parlé de paix. C'est beau parce que ses premières paroles, ça a été pour rappeler les premières paroles du ressuscité qui souhaite la paix, et évidemment que le pape rappelle la paix voulue par le Seigneur. Le Seigneur a dit je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est pas la paix des cimetières, si je puis dire, la paix qui existe alors que tout le monde est mort, si je puis dire, mais c'est vraiment la paix qui vient de Dieu. Saint Nicolas de Flux disait la paix vient de Dieu parce que Dieu est la paix. Alors, Dieu est la paix.
On va rappeler peut-être quelques éléments de biographie. Qui est ce pape? D'où vient-il? Alors, on sait qu'il a des origines françaises, italiennes, espagnoles, mais voilà, on va peut-être faire un petit rappel un petit peu sur ses origines, sur qui il est.
Oui, donc, comme tout le monde le sait, il est originaire de Chicago. Il est né en 1955. Son père est d'ascendance française. Hein, Prévost, c'est vraiment un nom français. Son père, d'ailleurs, a participé au débarquement en Normandie. Et alors, sa mère était une femme métisse avec une ascendance créole de Louisiane, et il avait deux tantes religieuses. Alors, il a fait ses études au petit séminaire tenu par les Augustins, et puis il est entré dans la communauté des Augustins en 77, donc à 22 ans. Il a fait ses premiers vœux en 78, ses vœux définitifs en 81, et il a été ordonné prêtre en 82 à Rome, là où il faisait ses études. Alors, il a obtenu un doctorat en droit canonique à Rome en 87. Voilà, pour sa formation.
Il fait partie de l'ordre des Augustins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de l'ordre des Augustins? Vous le connaissez, vous, bien, l'ordre des Augustins?
Alors, en fait, l'ordre des Augustins est assez peu connu en France. C'est un ordre qui date du XIIIe siècle, fondé en 1243. C'est un ordre mendiant. Les ordres mendiants, c'est d'abord les franciscains et les dominicains. C'est à cette époque-là qu'ils ont été créés, et juste après, quelques ermites ont voulu mener la vie commune, et donc est né l'ordre des ermites de Saint-Augustin, parce qu'ils ont pris la règle de Saint-Augustin. Saint-Augustin avait, disons, écrit une règle pour que des prêtres vivent ensemble, ce qu'on appelle la règle de Saint-Augustin, qui est toute simple. Et donc ça a donné lieu à cet ordre de Saint-Augustin qui s'est développé, et puis ensuite il y a eu des communautés qui était agrégé à cet ordre, c'est-à-dire qui avait pratiquement la même règle. Alors à Nîmes, par exemple, on connaît les Augustins de l'Assomption, les Assomptionnistes, qui ont été d'abord fondés à Nîmes par le père d'Alzon, et puis l'Institut d'Alzon. Eh bien, figurez-vous que les Assomptionnistes ils suivent cette règle de Saint-Augustin, mais ce n'était pas la même communauté que Monseigneur Prévost, si je puis dire. Les Oblates de l'Assomption aussi, donc suivent cette règle. Luther était un moine augustin au départ. Voilà. Sainte Rita aussi était augustine. Donc on connaît dans l'Église des gens qui ont suivi cette règle.
On va parler aussi du nom, Léon XIV. Pourquoi, on va dire, le choix de ce nom, selon vous, il va peut-être être dans la lignée de Léon XIII. Quel est votre ressenti par rapport à ça?
Oui, alors j'aimerais juste revenir un peu sur sa biographie en disant que donc il a été ordonné prêtre en 82, il a fait un doctorat de droit canonique qu'il a soutenu en 87 à Rome, et puis de 88 à 98 il a été missionnaire au Pérou. Donc il est parti parce que les Augustins ont des missions au Pérou, et il a dirigé le séminaire des Augustins là-bas. En 98, donc, il est élu provincial de son ordre dans une province des USA. Donc, il est revenu aux USA pour diriger une des provinces de l'ordre là-bas. En 2001, il a été élu prieur général des Augustins pour deux mandats de 6 ans. Voilà. Mmh. Donc là, il était responsable de tous les Augustins dans le monde. Je dis ça parce que ça en fait un homme quand même assez cosmopolite. Donc il a été à Rome, il parle italien, il a été au Pérou, il parle espagnol, et puis évidemment, il est américain. Mmh. Et quand on est général d'un ordre, eh bien, on voyage, on va voir les uns et les autres, on va visiter les communautés. Et donc, il a, je pense, une très belle expérience. Ça, c'est la vie religieuse, elle permet ça. Hein, alors qu'un prêtre diocésain, il est dans son diocèse. Un évêque diocésain, il est dans son diocèse. Mais lui, il a eu une dimension internationale tout de suite. Mmh. Et je pense que ça l'a bien préparé aussi à, disons, à cette mission. Et puis, alors, en 2014, il est nommé évêque de Chiclayo, au Pérou. Donc le pape François lui dit maintenant vous allez être évêque au Pérou puisque vous avez été au Pérou, vous connaissez l'espagnol, et là il va prendre la nationalité péruvienne parce que c'est obligatoire pour être évêque au Pérou d'être péruvien.
C'est ça, oui. C'est étonnant, oui. Il change même de nationalité.
Oui, donc il faut qu'il prenne cette nationalité. Il a la double nationalité, je suppose. Oui. Voilà. Alors, comme évêque, il a choisi une devise, parce que tous les évêques ont une devise. Et alors, on peut prendre une devise dans l'Écriture sainte, mais on peut la prendre ailleurs, on peut l'inventer aussi. Et lui, il prend « in illo uno unum », ça veut dire « en lui, nous sommes un ». Donc, dans le Christ, nous sommes un. Ça, c'est une phrase de saint Augustin, parce que dans cette vie augustinienne, si je puis dire, selon la règle de saint Augustin, d'abord, on vit en commun. C'est la principale caractéristique, c'est la vie commune. Alors, apostolique, c'est-à-dire on est au service d'un séminaire, d'une paroisse, mais on vit en commun. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le blason du pape Léon XIV, eh bien, il y a le cœur enflammé, qui est un signe des Augustins, c'est-à-dire l'amour qu'on a les uns pour les autres, qui est puisé dans l'amour de Dieu, mais c'est quand même l'amour qui nous unit, l'amour fraternel.
La charité.
La charité fraternelle, voilà. En lui, nous sommes un. Donc, là aussi, ministère d'unité, qui est le ministère de l'évêque, encore plus le ministère du pape, parce que le pape est quand même garant et signe de l'unité dans l'Église.
Tout à fait. Alors, un petit mot sur le nom Léon XIV, qu'est-ce que ça vous évoque?
C'est en référence à Léon XIII, évidemment. Alors, peut-être que les auditeurs connaissent peu Léon XIII, mais dès qu'on a fait un tout petit peu d'études, disons, de théologie, de doctrine sociale, moi, par exemple, quand j'ai appris que c'était Léon XIV, tout de suite, Léon XIII. Alors, Léon XIII, c'était un pape qui a vécu de 1810 à 1903. Donc, il a eu une longue vie et il a eu 25 ans de pontificat, alors que d'ailleurs, il avait une santé assez fragile. On pensait qu'il ne durerait pas longtemps. Il a quand même duré 25 ans.
Donc, c'est ce qu'on souhaite pour le pape Léon XIV.
Exactement. Et donc, Léon XIII, il est connu pour une encyclique historique qui s'appelle « Rerum Novarum ». « Rerum Novarum », ça veut dire « des choses nouvelles ». En fait, les choses nouvelles, c'est quoi à l'époque de Léon XIII? C'est la question sociale. Dans le contexte de la première grande révolution industrielle. Et vous voyez, ce n'est pas le début de la révolution industrielle. On est en 1892. C'est la révolution industrielle qui a eu des conséquences lourdes pour la classe ouvrière. Parce que dans cette encyclique, il examine la condition des travailleurs salariés et en particulier des ouvriers de l'industrie plongés dans la misère. C'est la question ouvrière qui est étudiée sous son aspect social dans cette encyclique. Et donc, Léon XIII expose la doctrine catholique sur le travail, sur le droit de propriété. Ça n'avait jamais été fait. On n'avait jamais réfléchi. Et il dit, à la lumière de la foi, on va réfléchir à cette question nouvelle. C'est ce qui est en train de se passer, en particulier dans les villes, là où il y a des usines. Il pense au travail, il étudie la question du droit de propriété, sur le principe de la collaboration, opposé à la lutte des classes, parce que le marxisme apparaît, le socialisme, et dans Rerum Novarum, il renvoie dos à dos, disons, le socialisme et le capitalisme, en disant ce qui fait avancer le monde et ce qui fera régler le problème de la condition ouvrière, c'est d'abord le dialogue, c'est pas des oppositions, des luttes entre classes. Et voilà. Et donc, le changement social, il arrive par le dialogue. Et du coup, il se positionne sur le droit des faibles, sur la dignité des pauvres, sur les obligations des riches, sur le perfectionnement de la justice par la charité. Et puis, il affirme le droit des travailleurs à un salaire équitable, à des conditions de travail sûres, Il prend position aussi pour la formation de syndicats. Il dit c'est oui, c'est important,
c'est important que, ouais, la formation, ouais,
que voilà, on puisse. Voilà. Il cherche finalement un ordre social juste et toutes les encycliques sociales vont se référer à cette première encyclique du pape Léon XIII. Par exemple, quand Jean-Paul II écrit Centesimus Annus, ben c'est 100 ans après l'encyclique Rerum Novarum. Alors, le pape Léon XIV dit « Aujourd'hui, l'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. » Voilà, donc je pense que son pontificat, ça va être un pontificat qui va être orienté en particulier sur ces questions nouvelles, hein, et puis sur la dignité de la personne dans son travail.
Et vous, Monseigneur, une question pour nos auditeurs. Avez-vous déjà rencontré donc le pape Léon XIV lorsqu'il n'était pas encore nommé pape, lorsqu'il était donc seulement, on va dire, Robert Francis Prévost? Vous avez eu l'occasion déjà de...
Oui, alors, bon, il se trouve que c'est... avant de devenir pape, il était le responsable des évêques, du dicastère pour les évêques. Mmh. Bon, mais il était là que depuis très peu de temps, hein, donc 2 ans. Mais quand j'ai été à Ajaccio, il se trouve que avant la messe, bon, on a eu un grand temps avant la messe parce que quand il y a une messe du pape, il faut se préparer, mais il y a toujours une heure et demie d'attente. Voilà. Et puis comme il était là, bon, on a parlé un peu. Alors évidemment, il ne se souvient pas de moi, mais j'étais content de pouvoir un peu lui parler, me présenter, et puis d'échanger un petit peu avec lui. J'ai trouvé un homme discret, presque réservé. Et en tout cas, d'une grande humilité, parce qu'à un moment, il est venu à une des rencontres qu'on avait, et puis il est venu un peu discrètement s'asseoir sur un siège au milieu de tout le monde. Là, à ce moment-là, je ne savais pas qui c'était, je n'avais même pas repéré que c'était le préfet des évêques. Et puis, voilà, il était là encore très discret. Bon, moi, je trouve que c'est beau d'avoir aussi un pape qui a cette personnalité, je ne dis pas effacée, mais une personnalité d'humilité.
Tout à fait. Alors, on lit dans la presse, il y a beaucoup d'articles hein, sur aussi le contexte social, sociétal hein, de notre nouveau pape. Pour vous, quels sont les défis vraiment majeurs pour l'Église catholique que le pape aura à relever, ou les défis de la société? Pour vous, quels sont vraiment les principaux points importants que le pape va devoir relever en ces temps qui sont les nôtres?
Bon, d'abord, le pape, il a une dimension internationale, on l'a vu. Ce qui est assez incroyable, c'est tout ce qui a été dit autour de l'élection de ce pape, hein, parce qu'on aurait pu très bien penser qu'en 2025, l'élection d'un pape n'intéressait personne, et qu'au fond, ça n'était pas un sujet. En fait, on voit le monde, le nombre de journalistes qui étaient là, la place que ça a prise aussi chez nous, hein, qui nous décrivons comme un pays laïque, ben, c'était quand même un sujet important. Et je pense qu'on attend quelque chose. Alors le pape François a un rayonnement à l'international, il s'est saisi d'un certain nombre de questions, et donc on est dans une période de grande tension, on est dans une période où on a l'impression qu'il y a des blocs qui se reforment. On est peut-être dans une troisième guerre mondiale qui ne se dit pas. Mais en tout cas, on voit comment le pape peut être une voix de la conscience, une voix pour la paix. Et on attend, je crois que tout le monde attend cela du pape. On a vu comment le pape François avait aussi ouvert des chemins autour de la question de la fraternité. C'est-à-dire comme s'il était aussi une voix de la conscience universelle pour dire « n'oublions pas la fraternité dans notre monde ». Voilà. Alors pour nous, la fraternité... C'est une fraternité devant le Père, parce que c'est une fraternité de grâce, c'est pas une fraternité de sang. Vous voyez, nous, on a une responsabilité vis-à-vis de la fraternité, précisément parce que nous sommes frères et sœurs devant le Père, dans la puissance de l'Esprit. Et parce qu'on a cette fraternité-là, qui est une fraternité, je dirais, au sens le plus fort possible, eh bien, on a une responsabilité pour la fraternité humaine. C'est-à-dire qu'on est porteur d'une fraternité tellement puissante devant le Père qu'on peut en témoigner devant les hommes en disant « nous avons besoin de ça ». Et donc, je crois qu'il y a une responsabilité des catholiques. On n'est pas les seuls acteurs de la fraternité, parce qu'il y a des tas de gens qui sont extrêmement fraternels. Mais je crois qu'on a une responsabilité pour cela. Alors ensuite, il y a les questions plus intra-ecclésiales sur la question de la synodalité. Bon, il y a eu un double synode qui s'est achevé l'an dernier, en 2024. Qu'est-ce qu'on va faire de ce synode? Je pense qu'il est porteur de questions extrêmement importantes, la participation de tous les baptisés à la vie de l'Église, aux responsabilités, le fait de pouvoir discerner ensemble dans l'Esprit Saint, c'est vraiment le discernement ecclésial. Alors voilà, comment le pape Léon XIV va se saisir de tout cela.
Et est-ce que justement cette devise dont vous nous avez parlé, en celui qui est un, soyons un, est-ce que justement c'est vraiment cet appel à l'unité dans l'Église, entre chrétiens? Est-ce qu'il y a aussi peut-être un appel à l'unité au niveau des chrétiens, au niveau du monde entier? Vous avez parlé de fraternité, d'unité. Est-ce que justement cette devise n'est pas une référence à ça?
Oui, alors ça on va voir. Là, vous voyez, il y a beaucoup d'inconnus aussi, parce que le pape Léon XIV, moi je ne sais pas comment il voit son pontificat, mais ça sera certainement des questions. L'unité des chrétiens, mais déjà l'unité dans l'Église catholique, parce qu'il est signe d'unité, et cette unité, finalement, elle n'est pas si évidente. Bon. Donc il y a ça. Voilà. Est-ce qu'il va voyager? Ça, c'est une question que je me pose, parce que le pape François, il avait voyagé, mais aux périphéries. Tandis que Jean-Paul II et Benoît XVI, ils avaient essayé de ranimer la foi dans les vieux pays de tradition catholique.
Comme en France.
Comme en France, voilà.
En Espagne.
Alors que François n'était pas du tout allé en France. Est-ce que Léon XIV va reprendre des voyages un peu à la Jean-Paul II, si je puis dire? Il est plus jeune, peut-être qu'il a plus de force. Quel regard il va avoir là-dessus? Ça va être aussi le profil particulier de son pontificat. Nous, on attend un peu. Et puis alors, sur peut-être des questions de doctrine, peut-être qu'il va avoir des thématiques très particulières qu'il a envie d'aborder, que les papes avant lui n'ont pas abordées. Il y a des questions que le pape avait ouvertes sur l'écologie. Est-ce qu'il va poursuivre ça? Et puis, quelles seront ses thématiques spirituelles? Vous voyez, le pape François, il avait à la fois des questions sociales comme l'écologie, la fraternité. Vous voyez, il a écrit aussi une très belle encyclique sur le Sacré-Cœur. Il a écrit un texte sur Sainte Thérèse. Il a écrit un texte sur la sainteté. Est-ce que il y aura des notes, vous voyez, léoniennes, si je puis dire? On se dira, ça c'est un petit peu... Je trouve ça normal aussi. Le pape, il arrive avec son expérience spirituelle. Et puis, il y a des points sur lesquels il a envie d'insister. Ouais. Donc ça, on verra, l'avenir nous le dira. Et puis, on confie tout ça, évidemment, au Saint-Esprit.
Alors justement, du 27 juillet au 4 août, le diocèse de Nîmes va partir avec 150 jeunes du Gard pour vivre le jubilé des jeunes à Rome. Donc peut-être qu'après ce jubilé, il y aura des rencontres avec le pape, et puis on pourra peut-être aussi avoir des petits retours sur déjà ce début de mandat, si on peut dire, d'élection du pape. Vous vous réjouissez aussi de ce voyage?
Ah ça c'est sûr que de connaître un nouveau pape, pour le groupe du Gard, c'est une chose qui va être importante. Donc on attend, j'espère qu'on pourra le voir de pas trop loin. C'est sûr que, par exemple, ça sera vraiment un moment où il montrera sa marque. Je me rappelle que Benoît XVI, il avait commencé son pontificat par des JMJ, François aussi à Rio. Donc là, il va commencer aussi un moment important de son pontificat, ça sera à Rome. On a 150 jeunes, on a 30 accompagnateurs, on a 12 prêtres. On cherche encore des places à Rome pour pouvoir prendre ceux qui maintenant s'inscrivent encore. Mais on sera très contents. Il y a des groupes qui viennent de tout le Gard, de tout le diocèse de Nîmes. Et ça, c'est une vraie joie de partir tous ensemble.
Alors pour terminer cette émission, peut-être un mot final, un message peut-être de prière pour notre pape notamment, parce que devenir pape, ça ne doit pas être très évident tout de même. Quel serait votre message?
Je dirais qu'il a été élu par les cardinaux, mais nous tous, baptisés, catholiques, on est responsables de son pontificat. C'est-à-dire que c'est lui que le Seigneur nous a donné. Maintenant, on le porte dans la prière. Alors, on peut dire un « Je vous salue Marie » par jour, ou dire une prière au Sacré-Cœur, ou une prière à l'Esprit-Saint, ce que chacun veut. Mais moi, je prie à chaque office pour le pape. Le matin, le soir, dans ma prière personnelle, je commence par une prière pour le pape, parce que je crois qu'il a besoin de cet élan de prière pour lui.
Merci, Monseigneur.
Merci, Laurence.